oui. Des ans, c'est ça. Il me semble que je les ai vus partir, c'est pour ça que je n'en savais pas. On va prier.
Oui.
Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de partager librement, comme ça a été dit tout à l'heure. Merci pour ta parole que nous pouvons lire et relire et méditer et écouter régulièrement. Merci parce que par ton esprit, tu nous parles et tu nous fais avancer sur le chemin de la vie. Guide ton serviteur qui va maintenant nous parler de ta part et que cela puisse produire du fruit dans nos vies. Amen.
Amen. Merci Jean-Pierre pour ton introduction qui nous rappelle combien il est important aussi de scruter, examiner si le prédicateur, la parole du prédicateur correspond prêche selon la parole de Dieu. D'ailleurs, dans les Actes, chapitre 17, les Béréniens scrutaient dans la parole si ce que l'apôtre Paul disait était juste. Et de même, je pense que chaque chrétien devrait justement faire cet exercice. Est-ce que chaque prédicateur de chaque matin, la prédication de chaque matin est vraiment selon la parole de Dieu? Et on devrait faire cet exercice-là. Merci en tout cas pour ce rappel, Jean-Pierre. Aujourd'hui, on va voir vous voyez, vous avez déjà vu, hein, 3 bougies allumées. C'est le 3e dimanche de l'Avent. C'est une période particulière, significative, puisque nous attendons justement la naissance de Jésus. Nous voulons fêter bientôt la naissance de Jésus. Et la période de l'Avent représente la période de l'attente. L'attente. Alors, quelle attente ? C'est une notion en tout cas qui soulève pas mal de questions. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous êtes patient? Ouais, non, pas trop, non. Personnellement, je dois vous avouer, je ne suis pas forcément très patient. J'ai appris à être patient, mais je pense que ma nature, mon origine coréenne, qui me fait... je vous explique un petit peu, hein. Comme je disais, que je dois avouer que la patience n'est pas ma plus grande vertu, parce que c'est pas très compatible avec la culture coréenne. Non, vous n'êtes pas surpris. vous connaissez pas, c'est vrai, la culture coréenne. Les Coréens ont tendance à privilégier la rapidité dans tous les aspects de la vie. On sait que si on va à la préfecture en France, on doit attendre. On sait qu'on doit attendre. Ou à la mairie, c'est pareil. Ou même à la banque, c'est pareil aussi. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Surtout dans les urgences. Là, aux urgences, là, c'est vraiment la galère. Par contre, si vous allez en Corée et que vous voulez peut-être changer de papier, là, quand vous demandez quelque chose, par exemple votre passeport, le lendemain, vous aurez votre passeport. Parce qu'ils travaillent super rapidement et super dur. Les gens qui travaillent, ils sont vraiment au taquet pour être le plus efficace possible. Voilà la culture coréenne. Imaginez les Coréens qui arrivent en France et qui veulent faire leurs papiers pour rester, les étudiants. Là, ils sont complètement perdus. Surtout quand il faut attendre 4 ou voire 5 heures, rien que pour avoir un rendez-vous avec la préfecture, ça devient très très difficile. Dans la vie quotidienne en Corée, c'est pareil. Quand j'étais en Corée, quand je prenais mon ascenseur, il y avait toujours un bouton de fermeture. Et ça, j'ai découvert seulement en France, il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, qu'on a commencé à mettre des boutons de fermeture dans l'ascenseur, alors qu'en Corée, ça a toujours existé. Au point que sur le bouton de fermeture, il n'y a plus de traces, en fait. tellement on appuie. Voilà, c'est très rapide. En fait, ils volent, ils ont cette culture de voilà, ils marchent vite, ils mangent vite. Ça me concerne aussi. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas non plus à attendre. Donc quand il y a un événement ou un spectacle, je ne suis pas du genre à venir 30 minutes à l'avance pour attendre. Non, je vais au dernier moment pour assister au spectacle. Quand on regarde aussi de plus près, enfin, il y a tellement de choses que je pourrais raconter. Donc, mais en tout cas, heureusement, par la parole de Dieu, j'ai aussi appris à être patient. Et surtout avec ma femme, en cohabitant avec ma femme, j'ai aussi appris une succès. Voilà, j'ai appris aussi à patienter. Elle est pas là, non, elle est pas là, elle est malade. Quand on regarde de plus près, ce sont aussi les enfants qui ont du mal à attendre. Quand on leur dit, par exemple, bah, vous allez avoir une chose plus tard, un cadeau, attendez un petit peu. Et les enfants ont tendance à exprimer leur impatience en répondant, non, je veux tout de suite, maintenant. De nos jours, c'est vrai, il n'y a pas que les enfants. Même les adultes ont du mal à être patients. Notre culture de zapping est caractérisée par l'impatience, où nous sommes justement habitués à tout obtenir rapidement, même en France aussi. Pourtant, la Bible nous enseigne sur la persévérance, qui est une qualité qui peut être une véritable bénédiction. Nous pouvons trouver des exemples de patience dans les récits bibliques, mais aussi dans les personnages qui ont su attendre avec foi et persévérance. Dans cette période de l'Avent où on doit attendre l'arrivée ou la naissance de Jésus, nous sommes aussi invités à réfléchir sur notre propre capacité à attendre, à persévérer dans la foi. Même si notre culture moderne favorise la rapidité, la patience peut être une vertu précieuse qui enrichit nos vies et qui renforce notre relation avec notre Seigneur. Alors, quel personnage que nous allons voir ce matin, il s'agit d'Abraham et de Sarah. Comment ils ont été patients dans leur relation avec le Seigneur? C'est ce que nous allons voir. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Je n'ai pas préparé pour lire tous ensemble, mais si vous avez en tout cas votre Bible ou votre smartphone, voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse, chapitre 12, à partir de verset 1. Je vous lis le premier verset. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham, il rencontre le Seigneur. Et puis, le Seigneur lui dit tout simplement de partir. Et il ne savait pas où il devait partir, mais quand même, il a obéi à cette parole. Est-ce que c'est vraiment facile d'obéir, d'écouter à ce genre d'ordre? Surtout de nos jours, on aime bien organiser, hein, vous savez, avant de partir quelque chose, avant de faire quelque chose, on organise de A à Z. Mais imaginez Abraham, on lui dit de partir tout simplement, mais il ne sait pas où aller. Souvent, là, on voit donc, dès la rencontre avec le Seigneur, Abraham doit partir sans savoir où aller. Souvent, on pense que dès qu'on rencontre le Seigneur, tout ira bien. Dès qu'on rencontre le Seigneur, nous marcherons sur le tapis rouge et que, voilà, tout sera vraiment dans le bonheur. Quand nous serons baptisés, tout ira bien. Ou quand je vais progresser dans la foi, tout ira bien. Non, c'est pas tout ira bien. Tout n'est pas bien parce qu'il y a pas mal d'embûches, d'épreuves dans la vie. Et Dieu se révèle à Abraham et Abraham, après l'avoir rencontré, tout n'était pas non plus bien, puisque Il devait aller là où il ne savait pas où aller. Dieu lui ordonne donc l'ordre de quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour se rendre dans un endroit que Dieu lui montrerait. Et là, à l'époque, il avait 75 ans. Et 75 ans, c'est quand même l'âge de presque de notre doyenne. Je pense que c'est Grâce qui est notre doyenne. Deuxième. Ouais, 76 ans. Hein. La doyenne, c'est Bernadette. Voilà. Abraham a obéi à cet âge-là, 75 ans, sans savoir où cela le mènerait. Cette obéissance, bien que difficile, témoigne de sa confiance totale en Dieu. J'aimerais vous lire, en tout cas, voilà, la foi d'Abraham va au-delà simplement d'obéir à l'ordre, mais aussi, cette foi inclut aussi l'attente de voir des promesses divines se réaliser. Quelle est cette promesse? Je vous lis au verset 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu béniras ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà donc une bénédiction, une promesse de bénédiction que Dieu fait à Abraham, qu'il serait une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il rendrait son nom grand et qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. En réponse à cet appel avec foi et obéissance, Abraham devient non seulement l'ancêtre de la foi, mais aussi un exemple d'attente confiante envers les promesses de Dieu et aussi envers son plan, parce qu'il croit aussi au plan de Dieu. Bien que parfois difficile, donc cette attente est une part essentielle de cheminement chrétien que nous devons aussi avoir. Patienter, comme je vous avais dit, n'est pas si facile, mais nous sommes encouragés à suivre l'exemple d'Abraham, à persévérer dans l'attente des promesses de Dieu tout au long de notre parcours spirituel, même lorsque les réponses et les plans divins se révèlent difficiles et que se révèlent progressivement, graduellement, parce que Abraham n'a pas pu tout voir ce qu'il allait devenir. Dans ce chemin de l'attente, de la réalisation de la promesse de Dieu, il est aussi important d'avoir un certain encouragement, parce qu'on ne va pas attendre tout le temps comme ça après avoir entendu une fois le message. Dieu, en fait, vient progressivement et assez régulièrement lui rappeler les promesses. Ça, c'est vraiment très important. Je vous donne un exemple. Vous savez, j'ai l'habitude de rentrer à Paris régulièrement pour des réunions pastorales ou pendant les vacances aussi. Je vais souvent à Paris. Je sais que mon temps de parcours dure 4 heures en voiture. Mais ce qui me rassure, c'est que 4 heures, ça peut être long. Mais durant le voyage, je vois souvent les panneaux d'affichage qui nous disent « Il vous reste tel kilomètre. 300 kilomètres. Ah, il me reste 300 kilomètres. Ah, 200 kilomètres. Ah, donc ça va encore. 150, on va bientôt arriver. Ah, c'est 50 kilomètres. » Là, mon cœur commence à se battre en disant que je retourne à chez moi. Parce que je me sens vraiment chez moi quand je viens à Paris, puisque j'ai grandi là-bas. Et voilà, donc il y a cette panneau d'indication qui nous donne une certaine espérance et nous aide aussi à attendre plus longtemps. Parfois, je vais aussi chez la grand-mère de Laetitia qui habite à Argelès. Et donc Argelès, c'est super loin, c'est tout près de Perpignan. Et donc il faut faire au moins 9 voire 10 heures de route, c'est très très loin. Et c'est pareil, heureusement qu'il y a des panneaux d'indication. À chaque fois, les enfants me disent « Papa, ça va ? Enfin, c'est encore long, il faut encore attendre longtemps ?» Non, non, il nous reste encore telle ou telle heure, il nous reste combien de kilomètres ? Ça nous rassure quand même. Et on arrive à endurer ce voyage, ce genre de voyage. Savez-vous que Abraham et Sarah ont aussi également reçu plusieurs panneaux d'indication ? pour guider leur parcours de vie et dans leur attente de la promesse de Dieu. Lorsque nous avons lu tout à l'heure toutes ces promesses que Dieu avait faites à Abraham, est-ce que vous vous rappelez deux choses? Deux grandes promesses que Dieu a faites. Tout d'abord, qu'ils allaient posséder de la terre promise. Deuxièmement, que Abraham allait avoir une descendance nombreuse. Ces promesses étaient exceptionnelles, mais c'était une promesse qui allait être réalisée pas forcément durant sa vie sur terre. C'était une promesse qui allait être réalisée plus tard. C'est vrai que, effectivement, la possession de la terre n'a pas eu lieu tout de suite, en tout cas de leur vivant, puisqu'il fallait attendre encore plus de 400 ans après, ou même voire presque 500 ans à l'époque de Josué, que la terre promise a été conquise par le peuple d'Israël. Il est en tout cas remarquable de considérer comment Abraham a pu maintenir son attente sans avoir eu l'occasion de voir la réalisation de la promesse de son vivant. En tout cas, je disais que cette persévérance exceptionnelle d'Abraham trouve son fondement dans sa foi profonde et sa confiance. Et puis, comme je vous avais dit, Dieu souvent intervient pour rappeler cette promesse plusieurs fois dans la vie d'Abraham. De même, pareil, pour nous aussi. Dans Genèse 15, je vous invite à ouvrir votre Bible, dans Genèse 15, verset 1, voilà une des panneaux d'indication que Dieu apporte aussi à Abraham. Voici ce qu'il dit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ah, il y a trois promesses encore, ou trois confirmations. Dans cette quête ou de la réalisation des promesses de Dieu, Dieu est en train de dire à Abraham, tout d'abord, ne crains pas. Je sais que tu vis en ce moment des moments difficiles, mais ne crains pas. Dieu encourage Abraham de ne pas craindre, de ne pas laisser la peur miner sa foi. C'est une affirmation puissante de la présence de Dieu. Dieu est en train de dire, Abraham, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. Je suis présent, je suis de ton côté. Et puis, la deuxième promesse, deuxième panneau d'indication qui le permet de tenir debout et continuer à aller de l'avant, c'est « Je suis ton bouclier ». Il n'est pas en train de dire « Je te donnerai un bouclier qui va te protéger ». Non, « Je suis moi-même ton bouclier ». Incroyable. Il ne donne pas un moyen pour qu'on se défende. Non, c'est lui, il intervient personnellement pour nous protéger. Voilà, je suis ton protecteur. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Donc, ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé, je suis là, je t'assure que je te protégerai. C'est ça qu'il est en train de dire, non pas seulement physiquement, mais aussi une protection spirituelle contre les attaques, mais aussi contre les doutes. Parfois, on peut avoir des doutes dans notre cheminement de foi. Le bouclier de Dieu nous protège des flèches, des lames tranchantes, du découragement, etc. Et puis, troisième panneau d'indication qui permet de l'endurer, de ce voyage, ce long voyage, il dit, tu auras une grande récompense. Une grande récompense. Dieu rappelle à Abraham la promesse d'une récompense future. Là, bientôt, on va avoir Noël, n'est-ce pas? Et on dit souvent aux enfants, soyez sages, vous allez avoir un bon cadeau après. Hein? Si vous n'êtes pas sage, attention. Hein? Là, Dieu est en train de dire, tu auras un cadeau à la fin. Tu auras un grand cadeau. Incroyable, une grande bénédiction, une récompense. Donc, tiens-toi bon. Tiens-toi bon. C'est ce qu'il est en train de dire aussi à nous tous. Voilà. C'est un encouragement à persévérer dans l'attente, même lorsque les promesses tarde à se réaliser. Alors, devant cette promesse, ces panneaux d'indication qui l'aident en tout cas à être boosté un petit peu, après avoir entendu ça, Abraham répond au Seigneur en disant, mais que me donneras-tu? D'accord, ok, tu vas me donner des récompenses, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Parce que là, il se rappelle encore la promesse de Dieu en disant qu'il serait sa descendance sera nombreuse. Et là, il n'a rien vu pour l'instant. Il n'a rien vu. Et là, il est en train de dire que je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire mon serviteur. Il n'est pas du tout de ma lignée. Eliezer, c'est un bon fidèle serviteur qui sert fidèlement moi. Peut-être que voilà, il va devenir mon enfant adoptif. En fait, Abraham est en train d'exprimer son inquiétude. Et là, au verset 4, Dieu lui répond ainsi. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu affirme clairement à Abraham qu'il aurait un fils issu de ses propres entrailles. Alors qu'ils ont dû déjà attendre assez longtemps. D'ailleurs, cette confirmation revient dans le chapitre 17, au verset 19. Dieu annonce à Abraham et à Sarah, Dieu annonce à Abraham, sa femme, Sarah, sa femme, enfanterait un fils et qu'il serait nommé Isaac. Incroyable. Incroyable. Il est en train de dire même le nom de son futur fils. Voilà, tu vas avoir un enfant et il s'appellera Isaac. Il s'appellera Isaac. Je vous rappelle encore qu'ils avaient beaucoup attendu. Ils avaient beaucoup attendu. Et là, il a maintenant 99 ans. Il a attendu 24 ans et sans rien voir. Dans le chapitre 18, Abraham rencontre les anges qui sont en train d'aller vers Sodome et Gomorre pour les détruire, pour détruire cette ville. Et là, ces anges lui rappellent que dans un an, qu'il aurait un bébé. Et là, cette fois-ci, alors que dans le chapitre 17, Sarah n'était pas présente, dans le chapitre 18, Sarah entend et elle rit, parce qu'elle avait 89 ans, et que voilà, elle n'avait plus l'âge pour pouvoir enfanter. Mais bien sûr, après avoir été confirmé de nouveau encore par les anges, ils ont la foi, ils ont attendu, et effectivement un an plus tard, c'est-à-dire quand Abraham a eu 100 ans et que quand Sarah a eu 90 ans, ils ont eu Isaac. Super, amen. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Mais non, la patience d'Abraham est à nouveau mise à l'épreuve, puisque Dieu lui demande des années plus tard, c'est-à-dire quand Isaac avait l'âge d'adolescence, on estime entre 15 et 20 ans, que Dieu lui demande de nouveau de sacrifier ce fils. Une requête apparemment déconcertante et déchirante. Imaginez Abraham qui avait attendu tellement longtemps, 25 ans, de patience avant d'avoir ce fils, et où il y a eu beaucoup de péripéties entre-temps. Et il reçoit l'ordre de Dieu de sacrifier son propre fils. Cet ordre semble être vraiment contraire à la promesse de Dieu qui lui disait que, justement, à travers sa descendance, qu'il aurait beaucoup de descendance. Cet ordre semble être vraiment contraire à la promesse de Dieu. Abraham, après avoir entendu cet ordre de Dieu de sacrifier son fils, il dit au verset 3, au chapitre 22, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et Isaac son fils, Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit. Abraham ne discute pas, ne se plaint pas, il ne conteste pas. Et il se lève tôt le matin, prépare le nécessaire et se met en route. La marche vers le lieu de sacrifice est probablement l'un des moments les plus difficiles d'Abraham. Peut-être que vous avez aussi vécu ce genre de choses, ou peut-être pas. Imaginez la tension, la douleur et l'agonie intérieure qu'il a dû ressentir en marchant aux côtés de son fils bien-aimé, qu'il a dû chérir. Il a attendu 100 ans pour avoir ce fils. Imaginez l'amour qu'il a dû donner à cet enfant, à son fils bien-aimé. Et là, il doit avoir un déchirement de cœur, sachant ce qu'il attend. Cependant, au moment crucial, lorsque le couteau est levé pour sacrifier Isaac, un ange du Seigneur intervient, verset 12, et il dit « N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Dieu fournit un bélier pris dans un buisson à la place d'Isaac pour l'Holocauste, et c'est, on voit ainsi, une délivrance miraculeuse. Voilà encore, sauvé d'inextrémiste, voilà, le fils, ouais, vous avez compris, délivrance miraculeuse, et cela vraiment montre la fidélité de Dieu à ses promesses. Cependant, voilà, est-ce que l'histoire d'Abraham finit comme ça? Il fallait encore attendre, encore attendre, pour que toutes ces promesses données à Abraham se réalisent. Et ça se réalise, bien sûr, avec l'arrivée de Messie. D'ailleurs, on voit toute cette attente d'Abraham, même dans le Nouveau Testament. Voici donc ce que dit le Nouveau Testament à propos d'Abraham, dans Galates 3, verset 16. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à sa postérité, c'est-à-dire à Isaac, non, pas Isaac, à Christ, à Christ. On voit bien que Paul, dans son analyse, il sait que la réponse que toutes les nations seront bénies n'est pas par Isaac, mais par le Christ. Par le Christ. Cela montre que le plan de Dieu va au-delà de la vie d'Abraham et de la lignée d'Isaac, mais les bénédictions promises s'étendent à toutes les nations à travers la venue de Messie, qui est de la lignée d'Isaac, qui est de la lignée d'Abraham, qui est de la lignée de David aussi. Cette perspective, on voit aussi dans Jean, chapitre 8, verset 56, où il est dit « Abraham, c'est Jésus qui parle, Abraham, votre père, là, Jésus s'adresse à ses auditeurs, votre père, parce que Abraham était vraiment respecté par tous les Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il parle de soi-même. « Mon jour, il l'a vu. » Abraham l'a vu déjà. Ce jour, l'arrivée de Jésus, du Messie. Et il s'est réjoui. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que non seulement Abraham avait la foi que sa descendance allait être nombreuse, mais il avait la foi que le Messie, le Sauveur, le Christ, allait arriver à travers sa lignée et que ce Sauveur allait sauver toutes les nations. Et il avait la foi et il voyait ceci. Il s'est réjoui à cause de ça. Certains me posaient la question, mais comment Abraham a été sauvé puisqu'il ne connaissait pas encore Jésus? Non, il avait déjà la foi en Jésus. Il avait déjà la foi en ce Messie qui allait venir à l'avance. Cela renforce en tout cas le message que Jésus, selon lequel il est le Messie attendu depuis longtemps et que son œuvre était prévue dès les premiers jours de la foi abrahamique. En tout cas, cela nous invite à réfléchir à notre propre foi et à notre capacité à attendre patiemment, sachant que Dieu a un plan plus vaste qui se dévoile progressivement. Quel est le plan qu'il a envers vous? Est-ce que vous croyez qu'il a un grand plan aussi, d'ailleurs, pour chacun d'entre vous? Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je viens de lire dans Galates et dans Jean? Ce sont des passages bibliques qui mettent en lumière le plan de salut réalisé par le Fils de Dieu, le Christ. Dans toute la Bible, on observe que les personnages bibliques ont su attendre avec foi. Parfois, la peur peut s'insinuer en nous, mais examinons comment ces personnages ont pu réussir à attendre. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont pu attendre avec cette espérance que Messie allait arriver. Leur foi en Messie les a sauvés. Et puis dans le Nouveau Testament révèle une nouvelle attente, c'est-à-dire une fois que Jésus est arrivé, une fois que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, et maintenant qu'il prie, intercède à la droite du Père, Jésus nous a promis de revenir. Jésus est déjà venu et il reviendra. Aujourd'hui, comme les tout premiers chrétiens, nous devons recevoir cette bonne tradition d'attente. C'est-à-dire que bien que nous célébrions avec joie la naissance de Jésus pour son œuvre de salut sur terre pour nous tous, pour la purification de nos péchés, nous reconnaissons également qu'il a promis de revenir. Cette attente, ce n'est pas seulement pour célébrer la naissance de Jésus. L'avance, ce n'est pas seulement pour célébrer la naissance de Jésus, mais aussi l'attente de sa venue. Oui, Jésus revient un jour. Et il nous demande, à travers ce message de l'Avent, soyez prêts à le recevoir. Oui, nous attendons dans l'espérance et dans la préparation, étant conscients que le Christ, qui est venu une première fois, viendra à nouveau. Cette attente donne un sens profond à notre foi et à notre engagement envers le message du Christ. En attendant son retour, nous continuons à vivre dans la lumière de son enseignement, oui, creusant la parole de Dieu, étudiant davantage pour savoir, pour laisser envahir par cette lumière de Dieu, et afin que nous puissions aussi devenir cette lumière, briller comme Jésus. Et partageons aussi l'amour qu'il a manifesté lors de sa venue. Ainsi, que notre attente soit empreinte de foi et de vigilance comme ceux qui nous ont précédés, dans la certitude que le Christ, notre Sauveur, reviendra et accomplira pleinement son dessein, son plan de salut pour toute l'humanité. C'est un super privilège. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin nous avons vu l'histoire d'Abraham qui a été exemplaire dans l'attente de ta promesse. Il a été fidèle, obéissant. Bien sûr, il y a eu des moments de doute. Bien sûr, il y a eu des moments d'instabilité, de désobéissance. Il a aussi commis des fautes, des péchés. Mais malgré tout, il n'a pas rejeté tes promesses. Nous pouvons bien sûr être déstabilisés, découragés par des différents événements ou des épreuves de la vie. Mais comme Abraham, aide-nous vraiment à continuer à avoir cette foi inébranlable pour être justifiés par le sang de l'agneau. Que notre confiance en toi grandisse davantage. Et même si parfois nous ne voyons pas où nous allons, parce que, voilà, toi, tu ne nous révèles pas forcément tout ton plan, voilà, un pas après l'autre, que nous puissions aussi découvrir pour avancer. Comme tu as aussi donné tous ces panneaux d'indication pour que Abraham endure son voyage sur cette terre, Aide-nous aussi à voir tous ces panneaux d'indication assez régulièrement à travers ta parole, à travers la communion avec toi, pour que nous puissions tenir bon dans les moments difficiles, dans les moments de joie aussi. Merci Père, parce que durant cette période d'attente de ta naissance, tu nous permets aussi de réfléchir que tu reviendras aussi un jour et que tu nous demandes de veiller pour préparer ce jour J. Merci encore pour ce beau message de salut pour nous tous. Merci encore pour ta présence avec nous. Au nom de Jésus. Amen.